faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte.
Et donc
On n'arrête pas l'écho. Le débat.
L'Europe a un problème, parce que l'Europe est celle qui paye l'addition.
Dominique de Villepin, ancien Premier ministre.
Montée de la Chine, déclin des États-Unis, et l'Europe se retrouve coincée entre les deux comme une variable d'ajustement du camp atlantique. Et ce qui est en cause, c'est la puissance de l'Europe. Nous voyons tous les jours le défi économique qui pèse sur l'Europe.
L'Europe apprend aussi à réagir et plus être aussi naïve.
Mathieu Plane, économiste à l'OFCE.
Une entreprise symbolique comme Harley Davidson est capable de délocaliser une partie de sa production en Europe si jamais on met aussi des taxes équivalentes à ce qui se fait du côté américain. Et donc la réponse finalement européenne, elle a été finalement très pragmatique et finalement très efficace.
On a empaqueté entre eux des pays qui ne sont pas harmonisés socialement, pas harmonisés fiscalement, et on leur a dit battez-vous entre vous et que le meilleur gagne.
Adrien Quatennens, député La France Insoumise.
Ça produit un effet où, comme la compétition se mène notamment sur le prix, c'est toujours le moins-disant social qui gagne, entraînant tous les autres pays d'Europe. Ces traités actuels interdisent l'harmonisation sociale et fiscale. Par conséquent, dire que le dumping social est un dommage collatéral, c'est faux. C'est l'essence même de cette construction européenne.
Évidemment, la grande question, c'est de savoir quelle va être la réponse de l'Allemagne aux différentes propositions française.
Thomas Gomard, directeur de l'Institut français des relations internationales.
En particulier pour ce qui a trait à un budget commun d'investissement et puis également pour ce qui a trait aux ambitions en termes d'autonomie stratégique européenne.
S'il y a une crise qui touche un État membre de la zone euro.
Bruno Le Maire, ministre de l'économie.
Oh, ça peut être la Grèce, ça peut être l'Italie, ça peut être l'Espagne, ça peut être la France aussi. Ce budget va permettre de stabiliser et d'amortir le choc de la crise.
On nous a parlé d'un budget de la zone euro à l'horizon 2021, sauf qu'il est dit d'emblée qu'il doit être minuscule, c'est-à-dire moins de 1% du PIB européen.
Thomas Piketty, économiste.
Surtout, on ne dit rien sur deux questions clés qui sont celles des impôts pour financer ce budget et celles de la démocratie. C'est-à-dire, si vous avez un budget qui est sans impôts et sans assemblée pour l'adopter, c'est pas un budget.
Nous avions jeudi et hier vendredi le Conseil européen, un sommet. Emmanuel Lechypre, est-ce que lorsque vous demandez est-ce la fin du projet européen, vous faites juste de la provoque ou est-ce que votre inquiétude est profonde et sincère?
Non, c'est une inquiétude qui part d'un constat relativement simple, qui est que nous avons, nous, pays européens, de plus en plus de défis qu'on ne pourra pas relever tout seul. Il y a de plus en plus de défis qu'on ne pourra relever qu'ensemble. Défis climatiques, défis technologiques, défis migratoires. Et malheureusement, on a l'impression qu'on a de moins en moins de défis qu'on a envie de relever ensemble. C'est ça qui m'inquiète, c'est ce hiatus entre d'un côté le fait que tout seul, personne ne s'en sortira, mais qu'on n'a pas envie de travailler non plus avec les autres.
Christian Chavagneux.
Il y a Le Soir, qui est le grand journal belge, il y a eu un titre cette semaine, l'Europe contemple son implosion. Je pense qu'on est au-delà de pour l'avenir, l'Europe n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est qu'aujourd'hui même, on est en train de voir sous nos yeux, peut-être notre génération, la fin du projet européen. Moi, c'est ça ma vraie inquiétude ce matin.
Alors, on va essayer de poser les questions, de définir les menaces, en tout cas économiques, parce qu'il y en a plusieurs, mais nous, notre prisme, c'est l'économie. Christian, trois questions, autant de menaces. La première, c'est est-ce qu'en 2018, l'Europe, qui a 61 ans d'existence, est-ce qu'elle compte encore dans l'ordre mondial?
C'est pas ce qu'elle compte encore. Malheureusement, elle devrait compter. C'est le premier marché du monde. Et pourtant, on compte pas. Regardez ce qui s'est passé ces dernières semaines entre la bataille entre Trump et la Chine. Et d'où on était où? On était en dessous. Pourquoi on était en dessous? Parce que Trump a dit, je vais attaquer les Européens et les Chinois. Les Chinois ont dit, si vous attaquez, je vous rends un pour un. Les Européens ont dit, oui, alors attendez, là, vous nous embêtez sur à telle hauteur, mais nous, on va vous répondre, mais un petit peu moins, parce que sinon, l'OMC serait pas d'accord. Enfin, on essaye de dire, voilà, on va jouer l'équipe, on va jouer un match de foot avec les États-Unis. Eux, ils ont le droit de jouer avec la main et pas nous. Mais nous, on joue pas avec la main parce que c'est les règles. Comprenez, il faut respecter les règles. Pendant ce temps-là, l'équipe en face, elle a le droit de jouer avec les mains. Donc les États-Unis et la Chine sont en train de se battre pour essayer de savoir comment est-ce qu'on va répartir les zones de production et les emplois dans le monde. Et nous, on regarde comme ça, en attendant de voir ce qui se passe. Et puis on dit, oui, mais attention, nous, une fois que vous aurez décidé, on se calera sur ce que vous avez décidé. Donc on est un nain économique. L'Europe ne joue pas aujourd'hui, n'a pas de poids dans la définition des règles de l'économie mondiale.
Emmanuel Lechypre.
C'est Hubert Védrine qui avait cette expression. Il parlait d'idiot du village global. Et on reste l'idiot du village global. Alors c'est vrai que vous parliez de la photo. Nous sommes quasiment le plus grand marché du monde, 500 millions de personnes, la première puissance économique mondiale quand vous agrégez un petit peu nos PIB, première puissance commerciale.
Mais et des économies en croissance. Nous sommes une union d'économies en croissance.
C'est ça qui fait peur. La photo, bon, allez, on peut dire qu'elle est plutôt jolie. Mais le film est quand même inquiétant parce que si on reprend justement tous les grands succès de l'Europe, ils sont tous très anciens. Les grands succès de la construction européenne, bon, c'est la paix, c'est les fonds structurels qui ont mis à niveau tout un tas de pays. Mais ça, c'était les années 80. Il y a la PAC qui a marché politique agricole commune, mais dont on voit les limites aujourd'hui. Sur tout le reste, rien. C'est-à-dire la diplomatie, rien. La défense, rien. L'énergie, rien. Le social, rien. La fiscalité, rien. Et la recherche et développement, rien. Songez quand même que l'objectif de 3% de dépenses du PIB en recherche et développement, c'est un objectif qui avait été fixé pour l'Europe en 2000. Songez qu'on ne l'a pas atteint en 2010 et qu'on ne l'atteindra pas en 2020. Songez qu'en 2000, on ne savait même pas ce que c'était qu'un iPhone, que personne ne connaissait Google, que Facebook, Amazon n'existaient pas et que Samsung fabriquait encore des téléviseurs. Vous voyez la vitesse à laquelle le monde change et à laquelle l'Europe ne veut pas changer. C'est ça qui est aujourd'hui inquiétant. Sur presque tous les sujets, en fait, l'Europe est fait toujours trop peu et quasiment toujours trop tard.
Vous la trouvez passive, Christian Chavagneux ?
Oui, juste pour aller dans le même sens qu'Emmanuel, vous prenez les grands secteurs de l'économie mondiale pour l'économie de demain. La technologie, Emmanuel l'a dit, Apple, Samsung, Amazon, Google, voilà les têtes. En santé, ces trois américaines. Dans le divertissement, qui tient une place de plus en plus importante dans les vies de tout le monde, trois américaines. Dans l'électronique, deux firmes multinationales américaines, une allemande. L'Europe est très très loin derrière. Vous prenez la finance internationale, le dollar, c'est encore 88% des échanges de monnaie dans le monde. Alors, faut faire attention, parce que quand on échange le dollar contre autre chose, le total, c'est 200%. Donc, le dollar, c'est 88, et nous, l'euro, on arrive derrière avec 30%. Très, très loin derrière. Une crise bancaire, aujourd'hui, c'est une crise bancaire qui viendra des États-Unis, pas d'Inde ou de Chine. Et puis, moi, j'ai ce petit indicateur que j'aime bien, c'est d'où nous viennent nos représentations du monde qui fait qu'on pense comme ci ou comme ça notre avenir. Bon, les prix Nobel qui ont été décernés depuis qu'il y a des prix Nobel jusqu'à aujourd'hui, toute discipline
confondue. Oui, confondue, avec des Américains, vieux, des hommes blancs, voilà.
Oui, mais 38% d'Américains et les deuxièmes, c'est le Royaume-Uni avec 12%
dont beaucoup ne sont pas d'origine américaine d'ailleurs.
Dont beaucoup ne sont pas d'origine américaine. Mais en fait, pourquoi je prends des prix Nobel? Parce que c'est les grandes représentations du monde qu'il y a et qui cadre notre pensée. Eh bien, ça vient encore des États-Unis.
En même temps, qui vend 3 millions de livres, c'est Thomas Piketty, le français.
Oui, d'accord. Voilà. Enfin, les autres
Mais vous trouverez toujours une exception qui confirme la règle. Sur la technologie, c'est quand même ça aussi. Quand on se tourne vers le futur, Christian a raison. C'est quand même ça aussi qui prépare notre avenir. Et le thème de colonie digitale est parfaitement adapté. C'est Laurence Boone l'économiste française, qui vient d'être nommé chef des économistes de l'OCDE, qui, en matière de technologie, parle d'Europe comme une diagonale du vide numérique entre les États-Unis et entre la Chine. On n'a pas d'acteur numérique, effectivement, de poids. Christian l'a dit. Prenez juste l'histoire des moteurs de recherche, par exemple, notre ami de Quant qui était là il y a quelques semaines,
c'est
moins de 1% des parts de marché des moteurs de recherche. Si vous prenez notre champion national, une entreprise absolument extraordinaire, OVH, entreprise française spécialisée dans le cloud, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires. Amazon Web Service, c'est 18 milliards de chiffre d'affaires. Donc vous voyez que sur tous les sujets, on est quand même très très en retard de ce qui se fait dans le monde, et en partie parce que moi je pense que le vice le plus profond, c'est quand même cette organisation institutionnelle qui fait qu'aujourd'hui c'est impossible d'avancer, de prendre des décisions en Europe et d'avancer.
Alors tout à l'heure, Christian parlait des crises. La deuxième menace, la deuxième question en fait, Christian, c'est est-ce que à 61 ans, l'Europe, ça y est quand même mieux configurée pour encaisser les chocs?
Bah non, je pense pas. Regardez la Grèce, par exemple, qui nous a été donné un exemple cette semaine, comme on a un pays qui a eu un problème, on l'a bien géré, maintenant ils n'ont plus de problème, et puis la Grèce est terminée. Mais c'est un contresens absolument incroyable. L'austérité drastique a tué le pays, a tué des gens, c'est physiquement. Le pays aujourd'hui va très mal, 10% de chômeurs sont indemnisés, à Athènes, la consommation de psychotropes a été multipliée par 35. C'est ça le résultat dans la vraie vie des gens de l'austérité imposée par l'Europe aux Grecs. La trajectoire qui est prévue à moyen long terme par l'Union européenne est complètement bancale. Tout ça pourquoi? On nous fait croire que la Grèce va pouvoir rembourser ses dettes simplement pour pas avoir à l'annuler parce que les Allemands veulent pas l'annuler. Déni de solidarité. Voilà, notre capacité de répondre aux crises, c'est le déni maximum de solidarité.
Et la prochaine crise financière dans les chocs?
La prochaine crise financière, d'abord, j'ai pas l'impression que elle soit imminente. Si vous regardez les grands équilibres financiers, ils sont moins inquiétants aujourd'hui que ce qu'ils étaient en 2008, 2009, 2010. Prenez la situation qui a failli faire exploser l'Europe, hein, les dettes publiques très élevées, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Italie. Si vous regardez la situation financière de l'Espagne, de la Grèce, de l'Italie aujourd'hui, elle est quand même nettement meilleure qu'à l'époque. L'Italie, par exemple, qui inquiète aujourd'hui, en 2011, avait des très gros déficits extérieurs. Ça veut dire que vous avez besoin de l'épargne étrangère. Quand vous avez des déficits extérieurs, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Mais la réalité, c'est quand même que cette Europe qu'on a construite, elle a exacerbé les divergences et les différences entre les différents pays au lieu de créer de la convergence comme on nous l'avait promis. C'est-à-dire qu'en gros, la libre circulation des marchandises, des capitaux, des hommes, etc.
a fait que chacun
s'est spécialisé dans ce pourquoi il était le plus fort et que la construction européenne a mis des a mis du sel sur les plaies de chaque pays. Parce que, effectivement, les difficultés fondamentales de chaque pays aujourd'hui, de l'Italie, de la France, etc., elles sont intrinsèquement liées à l'organisation de ces pays. Le sous-investissement en Italie, l'excès de dépenses publiques en France, etc. Mais l'Europe était censée corriger ça. Or, en fait, l'Europe n'a fait que pousser chacun à cultiver ses propres défauts. Et aujourd'hui, c'est quand même extrêmement problématique.
Donc, les économies qui divergent, l'Europe qui ne protège pas assez, ça, je pense qu'on a bien exploré le sujet pendant la dernière campagne présidentielle, l'Europe qui ne protège pas assez. Christian, on a eu là un sommet européen, il y a des choses sur la table qui paraissent encore très floues. Il y a cette histoire de budget de la zone euro, l'union bancaire, le fonds monétaire européen. Dites-nous si ce qu'il y a actuellement sur la table, et notamment poussé par la France, qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est de nature à renforcer l'Europe?
Juste un petit mot complémentaire pour un chiffre pour la divergence. C'est les économistes de Candriam qui ont simplement fait un calcul tout bête, le PIB par habitant des différents pays européens, entre le plus petit PIB par habitant et le plus grand. Au début des années 80, l'écart il était 2,5 entre le plus pauvre, je dirais, européen et le plus riche. Aujourd'hui, c'est près de 4. Voilà ce qu'a fait aussi en partie la zone euro, c'est accroître les divergences économiques, accroître les inégalités entre les pays au sein de la zone euro. Est-ce que on va pouvoir y répondre avec un budget européen, une union bancaire, etc., etc. Aujourd'hui, la réponse est non. Pourquoi ? Parce que, est-ce que vous croyez que, dans le zapping, on avait cette expression. Aujourd'hui, l'Europe, c'est la zone du monde où il y a le plus de concurrence fiscale, où il y a le plus de concurrence sociale entre les pays européens par rapport au reste du monde. Est-ce que, en quoi on répond à ça en disant on va avoir un ministre des Finances de la zone euro ? C'est une réponse technocratique, c'est une réponse d'économiste qui ne répond pas du tout aux enjeux de solidarité qui sont nécessaires pour faire face à une crise bancaire, pour faire face à n'importe quel type de crise. Alors oui, l'union bancaire, je trouve que le fait qu'aujourd'hui on est à Francfort, un superviseur européen qui puisse regarder les banques en Italie, en Grèce, en France, en disant « attention, là, vous allez trop loin, il va falloir faire quelque chose », je trouve que ça, c'est plutôt bien. Là, on a progressé sur la surveillance. Mais si demain, on a tous peur que la Deutsche Bank explose, d'accord ? C'est une des plus grosses banques européennes. Demain, si la Deutsche Bank explose avec ses milliers de filiales partout en Europe et partout dans le monde, est-ce qu'on a la capacité de résoudre, d'organiser le sauvetage ou la faillite de la Deutsche Bank ? Je ne pense pas.
Une crise arrive des États-Unis, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Si une crise arrive des États-Unis, moi je pense qu'on a encore les outils. N'oublions pas qu'on est passé d'un déficit budgétaire de plus de 6% du PIB en 2009-2010 à 0,9% prévu, pour 2017. Donc on a des marges de manœuvre budgétaires et on a des marges de manœuvre monétaires. C'est vrai que les taux d'intérêt aujourd'hui ils sont très bas et quand ils sont à zéro on ne va pas les mettre sous zéro. Mais on a compris avec la crise qu'on faisait du quantitative easing, qu'il y avait des politiques monétaires non conventionnelles qui nous permettent de répondre à la crise. Donc ça, mon inquiétude principale n'est pas sur le fait que si demain il y a une crise, et comme l'a dit Emmanuel, ce ne sera pas demain, si demain il y a une crise, on ne pourra pas répondre. Par contre, mon inquiétude, c'est le fait qu'on n'a plus de projet européen.
Emmanuel, le chiffre, le mot de la fin.
Ce qui est inquiétant, c'est un peu ce que disait Einstein, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a que les imbéciles qui pensent que quand vous faites la même politique et que vous trouvez les mêmes solutions aux mêmes problèmes, vous pensez que si vous faites à chaque fois la même chose, il y aura un résultat différent un jour. Et on voit bien que là, on refait tout ce qui n'a pas marché dans le passé avec ce ministre des Finances de la zone euro. Le bon baromètre pour voir si l'Europe va mal, c'est la réaction de l'Allemagne. Il faut savoir que l'Allemagne a peur quand même que d'une chose, c'est que l'euro explose et qu'elle se retrouve avec un mark très élevé qui tuerait son économie. Et donc à chaque fois que l'Allemagne sent que l'euro est menacé, elle fait des concessions. Elle l'a fait en 92-93, au moment des crises financières.
Enfin, là, les concessions sont floues,
Emmanuel. Fallait faire l'euro. Mais là, en 2010-2011, c'est pareil. L'Allemagne a quand même accepté de faire un peu de solidarité financière. Là, il y a quand même cette... Si, Madame Merkel, elle a accepté cette idée de ministre. Oui, mais c'est là qu'on va voir que ça ne mène nulle part, puisque une fois qu'on a décidé qu'il y avait cette enveloppe un petit peu ministre des Finances de la zone euro, on voit bien que personne n'y met la même chose. Vous voyez bien que les
Français... Le budget de la zone euro, personne ne met la même chose.
Vous voyez bien que les Français y mettent plutôt un Père Noël et que les Allemands y mettent plutôt un Père Fouettard. Et il faudra se mettre d'accord sur tout ça.
Eh ben, je crois que pour cette émission, vous nous avez quand même un petit peu... Ouais, angoissé.
C'est pas demain qu'on aura une équipe d'Europe au Mondial de foot.
Hein. On en parlera plus tard, ça. Allez, l'économie comme elle se passe ailleurs. On ferme le dossier européen ce matin. Je vous emmène en Afrique du Nord, au Maroc, où Danone est touché par un appel au boycott.
Soyez les bienvenus sur Medion TV, la télé que vous avez choisie pour vous informer et dans votre matinale.
Bonjour Stéphanie Wenger.
Bonjour Alexandra.
Stéphanie, vous êtes la correspondante de France Inter au Maroc. Donc, l'appel au boycott contre le lait, contre les yaourts Danone, a été lancé sur les réseaux sociaux marocains le 20 avril. Deux mois plus tard, la situation est suffisamment inquiétante pour que le patron de Danone tente une visite sur place et ça s'est passé cette semaine.
Oui, il a donné une conférence de presse, mais il a aussi été à la rencontre de femmes, de jeunes, d'agriculteurs. Emmanuel Faber voulait faire passer ce message. Je respecte le choix des consommateurs, même si je le regrette. Il s'est engagé aussi à ce que Danone produise à l'avenir du lait à prix coûtant. Alors, il est trop tôt pour dire si cette visite aura un effet sur les ventes des produits de la marque française qui sont tombés à pic. Les offres commerciales n'ont rien changé. Les concurrents, eux, n'ont pas baissé leur prix. Donc, pour l'instant, le consommateur n'en sort pas gagnant non plus. Du côté de la filiale de Danone, en tout cas, les salariés sont plus qu'inquiets. Les intérimaires ont été remerciés. Un des sites de production est passé en sous-régime cette semaine. Depuis le début du mouvement, Danone a réduit de 30% les collectes aux éleveurs. Pour les plus petits, c'est une vraie perte de revenus. On a du mal à envisager aujourd'hui une sortie de crise. En tout cas, lors de sa visite, Emmanuel Faber l'a répété à plusieurs reprises. Danone, présent au Maroc depuis 1953, ne partira pas.
C'est très mystérieux, Stéphanie, les raisons de ce boycott. Est-ce que ça nous dit quelque chose de l'état de la société, de l'économie marocaine aujourd'hui ?
Alors d'abord, le mot d'ordre lancé le 20 avril sur les réseaux sociaux, en effet, reste mystérieux. On ne sait pas qui est derrière. Il faut rappeler que deux autres marques sont concernées, une eau minérale et des stations essence. Cette fois-ci, pas des multinationales, mais des entreprises marocaines très implantées et dont les patrons font partie de l'élite économique, celle qui est proche du pouvoir quand elle n'est pas carrément au gouvernement. Ce qui est sûr, c'est qu'il est révélateur d'un vrai ras-le-bol dans une société marocaine de plus en plus écrasée par le coût de la vie. Le lait au litre est vendu au même prix, voire plus cher qu'en France, alors que le salaire minimum au Maroc tourne autour de 230 euros. Et ça, c'est pour ceux qui ont de la chance d'avoir un contrat. Beaucoup travaillent dans l'économie informelle au jour le jour. Alors, un des produits visés comme l'eau minérale ne concerne que la classe moyenne au Maroc, c'est vrai. Mais ce boycott est porté bien au-delà de cette catégorie sociale et résonne avec les préoccupations de l'immense majorité des Marocains.
Stéphanie Wenger avec nous depuis Rabat, merci à vous. Christian Chavagneux, après l'angoisse sur l'avenir de l'Europe, allez, on se quitte sur une bonne nouvelle écho.
Ah non, mais j'ai que des bonnes nouvelles à vous donner. Regardez, en huitième de finale de la Coupe du monde de football, les trois quarts des joueurs jouent en Europe. Vous voyez que l'Europe, elle est quand même bien présente. Et deuxième bonne nouvelle, cette semaine, la commission des lois de l'Assemblée a voté le fait que dans l'article 1 de la Constitution, la République agit pour la préservation de l'environnement, la diversité biologique. Ça, c'est excellent. On peut mettre dans la Constitution le fait que on va défendre l'environnement. Et dernière bonne nouvelle, le Delaware. Vous savez, cet État américain qui a un véritable paradis fiscal. Et bien cette semaine, ils ont dit on va rendre public les bénéficiaires effectifs des sociétés. Donc c'est la fin de l'opacité au Delaware. C'est pas une bonne nouvelle ça?
C'est une bonne nouvelle. Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chypre, je vous trouve un peu palo et donc venez, nous sortons du studio. Les sunlight là, ça marche pas. Ce week-end, nous partons camper, mais je vous préviens, le secteur a été bouleversé. Alors s'il vous plaît, vous ne dites plus camping, vous dites hôtellerie de plein air.